22 tout le monde
présente
relecture.
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 Relecture en réécoute. Antenne Kiasma. Alors, bon, j'ai fait un espèce de programme. On va essayer de faire tout le programme, mais c'est un programme assez quand même accessible. Hein, je sais pas. Donc c'est un des programmes. En fait, normalement, c'est quelque chose qui est plus long. Mais là, ce soir, on va faire un des programmes, et puis ça me permettra de savoir si c'est possible de faire plus. Alors, ce qui est assez difficile, et là, c'est assez important, c'est à la fois de vous demander tous de vous concentrer et de vous détendre. Et alors, de vous concentrer sur quelque chose de précis. Moi, je pense qu'il faut que vous cessiez de vous disperser tout cela. Ça, c'est... Ça se voit au premier coup d'œil, vous avez tous l'air complètement dispersés. Désolé de dire ça, pour commencer, c'est pas très sympa, parce que, comme on dit dans la profession, vous êtes un peu atomisés. Alors on dit aussi, bon, ça c'est, on dit en anglais, vous êtes un peu puzzle. Ou alors on dit, vous êtes en épisode à suivre. Ou bien on dit aussi parfois, vous êtes vitre brisée. Ou, et ça c'est assez important, on dit, vous n'avez pas de main fraîche à poser sur votre visage, ou plutôt, vous n'avez pas la main d'un cambrioleur glacé sur la cuisse comme un enfant qui cherche la chaleur de l'obscurité. Ça, je ne peux pas dire que vous... Je vois tout de suite, quoi, c'est un truc comme ça, là, c'est au premier coup d'œil, je vois que ça, vous ne l'avez pas. C'est un peu en désordre. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un programme quand même un peu ramassé, parce que je me dis, on commence de loin, et vous allez devoir me suivre un petit peu, et faire ce que je dis. Là, vous n'êtes pas tout à fait là encore. Vous êtes encore un peu en tas, en petits fragments. Alors si, par exemple, on éclaire avec une torche, vous êtes une flaque de matière organique. On dit aussi, vous êtes l'énorme œuf brisé, ouvert dans l'obscurité, des couloirs d'un vaisseau, mais sans la créature. Et où est la créature, c'est la question. Vous êtes la cabine d'un avion encastré dans une tour, mais vous ne savez plus très bien à quoi vous participez. Alors, on dit, moi pas, mais je me réfère un petit peu aux écrits qui existent à ce sujet, on dit, vous êtes comme le chien qui court après sa queue. Vous connaissez l'histoire du chien soudainement coupé en deux qui court après ses propres os pour les rapporter à son maître. Vous êtes comme les premiers animaux qu'on a téléportés. Quand on les rassemblait, ils étaient exactement pareils, je veux dire identiques, mais à la fois tout à fait différents. Alors, je ne veux pas revenir ce soir sur les controverses qui sont liées à la téléportation. Ce n'est pas mon sujet, et on n'a pas beaucoup de temps, et je pense que c'est un long sujet, mais on ne pourra jamais vraiment trancher sur le statut des téléportés. Sont-ils ou ne sont-ils pas des nationaux comme les autres? Ça, je vous laisse méditer la question. Mais là, vraiment là maintenant que j'ai à peu près... expliquer le problème, j'ai été à grands traits, mais je pense que j'ai quand même expliqué le problème, il va falloir vous rassembler. C'est important, pour ce qu'on a à faire ce soir. Il va falloir vous reprendre, hein? Ça c'est OK. Il va falloir que vous trouviez des prises à l'intérieur de vous-même. Moi je suis que le guide là. C'est comme si vous escaladiez l'intérieur de vous-même, on dit du bas vers le haut par exemple, en cherchant des prises parmi vos propres organes. C'est bon pour tout le monde, ça? Bon. Moi, je ne suis pas très spécialiste, alors il va falloir quand même que... Et toujours est-il que vous vous dirigez maintenant à la force de vos propres muscles, mais à la fois en les empoignant, vous vous dirigez donc vers la lumière de la voûte. C'est une bouche qui vous parle, ou même plus précisément, c'est votre bouche qui vous parle. Et sur la surface de la voûte qui est rose, qui tire vers l'orange, vous regardez un film dans votre bouche, mais que cependant, vous pouvez voir. Bon, c'est un exemple, hein. Je sais pas. Après, libre à vous d'en faire un peu plus, par exemple d'ajouter des personnages, des paysages, un certain érotisme, le retour des visages connus, aimés, les gens dont le nom commence à nous échapper, une lumière particulière, des intrigues, des animaux sauvages. Puisque souvent ça finit comme ça quand même, hein, parce que on ne veut faire de mal à personne, on dit « je ne veux faire de mal à personne », mais à l'arrivée quand même, il y a toujours des choses qui ne se passent pas comme prévu. Et alors, c'est quand même assez pratique de pouvoir convoquer des bêtes sauvages. Je veux dire, ça remet tout le monde à sa place. Alors, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce soir. Et donc, de vous concentrer sur quelque chose de précis. Même si à l'instant, même si vous continuez à recevoir des emails qui, pour parvenir jusqu'à vous, je vous le rappelle, transpercent en quelque sorte des milliers de corps et de matériaux. Et à la rigueur, vous pourriez vous concentrer là-dessus. C'est-à-dire la brique, le béton cellulaire, le verre auto-nettoyant, les variations électriques, les champs magnétiques. Mais sans vous intéresser trop vite au contenu des messages eux-mêmes. Par exemple, sans vous intéresser au contenu du message de votre chargé de compte bancaire, qui manifestement, année après année, est de plus en plus jeune, ce qui n'est pas bon signe, et qui, à force, va fatalement finir par s'appeler Dylan ou Jean-Kévin. Ne vous concentrez pas là-dessus. Détendez-vous. C'est pas ça qu'on va explorer. Alors, ne fermez pas encore les yeux. Attendez un peu. Pensez à un canapé. C'est bon, là, vous pensez à un canapé ? Je suis pas sûr que si vous pensez à un canapé cuir qui colle sur le dos nu et short et visage sale, je ne suis pas sûr que si vous pensez à un canapé contemporain, par exemple, ça fonctionne aussi bien que si vous pensez à un canapé cuir pareil qui colle au dos, short et visage sale, mais en 1982, au mois de juillet. Il faut que vous essayiez, autant que faire se peut, de vous focaliser, par exemple, sur un jardin, en juillet, en 1982, dans une banlieue indéterminée. Pas important pour le moment d'avoir un sentiment précis, ni de choisir une banlieue en particulier, ni de savoir si les chiens que vous apercevez en train de se mordre, le dos sur l'herbe pelée, sont des animaux domestiques ou sauvages. Oubliez l'idée de la peur. Vous vous focalisez sur le canapé, ok ? Juste le canapé, c'est bon. Alors là, c'est un petit peu difficile pour l'instant, pour tout vous dire, car la vision est, comment dirais-je, encombrée par de très nombreux canapés, formes, matières et modèles différents. Alors certains ont, semble-t-il, préféré le sky au cuir, à la rigueur, ça passe. Mais vous êtes nombreux à avoir totalement perdu de vue l'importance du mois de juillet et du jardin. Alors moi, je n'ai pas les moyens matériels de vous imposer, de vous focaliser sur quoi que ce soit. Mais si on n'arrive pas à trouver un endroit pour commencer, en 1982, en 1986, en 1992, en 1995, en 2001 ou en 2005, pour ne citer que les sites les plus connus, ça ne va pas pouvoir durer longtemps. Je sais que certains n'ont absolument aucune idée de la manière de faire apparaître une image de 1982. C'est parfois même avant leur naissance. C'est loin, je suis d'accord. Et le mois de juillet, le fameux mois de juillet, demande un travail particulier. Il va falloir donc s'employer. Alors, on peut y arriver par un autre chemin. Attendez, on va peut-être faire ça. Attendez, je vais. Parce que là, je pense qu'on n'est pas, on n'est pas bien parti là. Alors, aux États-Unis, un élève de 12 ans, fasciné d'électronique, a fabriqué une horloge digitale. Il paraît que fabriquer une horloge digitale est l'un des points de passage quasi obligatoires pour un geek en électronique. Ce jeune élève s'appelle Mohamed Ahmad. La police l'a arrêté dans son école et l'a menotté dans son école comme un terroriste à cause de l'horloge qu'un professeur a pris pour une bombe et pas une horloge. C'est sûr que lorsqu'on s'appelle Mohamed Ahmad, on a plus de chances, en quelque sorte, de fabriquer des bombes que si l'on s'appelle Timothy. Et pourtant, c'est bien un Timothy, Timothy James McVeigh, qui a détruit à l'explosif un bâtiment fédéral dans le centre-ville d'Oklahoma City en 1995. Timothy a ainsi tué 168 Américains et en a blessé 680. Ce qui fait beaucoup d'Américains quand même. Et Mohamed Ahmad, lui, a fabriqué une horloge. Pas une bombe, mais le truc que tous les geeks font un jour, pour une raison inexplicable, une horloge digitale qui, avec ses fils, ressemble à la manière dont on représente les bombes. Donc, c'est une question de représentation. Les policiers ont dit au jeune Mohamed Ahmad, c'est une question de représentation. Ce n'est pas quelque chose de personnel. C'est quelque chose qui a à voir avec les films et avec les séries télévisées. Alors, Mohamed Ahmad, ça, on ne le sait pas trop, a peut-être parfaitement compris le raisonnement des policiers, hein, car il est américain, et donc, de ce fait, il fait en quelque sorte partie de ce qu'on appelle la fiction. Et car le problème, quand on parle d'Amérique, et c'est pour ça que je n'aime pas tellement passer par ce chemin-là, je dois vous dire, le problème, c'est qu'on s'éloigne des faits, ou alors les faits n'ont pas la même consistance, et tout de suite, quoi qu'on fasse, on entre dans la fiction. En partie, et même totalement, si bien que Timothy comme Mohamed, dans ce cas, on a un mal fou à croire qu'ils existent vraiment. Et que vraiment, cela existe des pays où l'on met des menottes à des gosses qui bricolent des horloges digitales. C'est difficile à croire, comme si on nous disait, par exemple, que le petit Mohamed Ahmad roulait sur le goudron lisse d'une zone résidentielle américaine dans les années 80, avec un vélo d'époque, en compagnie de ses copains, et que sur le porte-bagages avant, sous un drap, il transportait non pas une horloge digitale de son cru, mais une espèce d'extraterrestre avec des gros yeux et avec un long cou qui voulait simplement rentrer chez lui. Comme si ces années 80-là, joyeuses, insouciantes et parfois un petit peu lubriques, avaient remplacé les vraies années 80, laborieuses avec le visage éclaboussé de sueur de Marius Trésor à l'écran, bras levés, dents blanches, dehors, dans la nuit de Séville et dans toutes les nuits de France, en juillet 1982. Voilà, c'est bien. Là, on est revenu à peu près où je voulais qu'on vienne. Non, on peut commencer. Comme quoi ça sert à l'Amérique, hein ? Ce que voit Marius est tout à fait diffus. À cet instant, ce qu'il voit est tout à fait diffus. C'est comme s'il avait enfilé un masque, mais qu'au lieu d'avoir des trous pour les yeux, on avait laissé les yeux d'un autre. Et comme si on avait enlevé toute la peau et les yeux d'un autre pour faire un masque. Évidemment, dans ce cas, il est nécessaire qu'il y ait une forte ressemblance entre le visage qui a servi à faire le masque et le visage de celui qui le porte. C'est un visage d'homme noir, et comme c'est filmé de nuit, ça va. On ne voit pas tellement la différence, et les dents sont bien celles de Marius Trésor. Bon, ça, c'est un exemple. Hein. Concentrons-nous maintenant, surtout, sur ce que voit Marius Trésor à cet instant, ou plus précisément, à la vision qui le traverse en 1982. Depuis l'endroit qu'est 1982, ce qui le traverse vous traverse aussi. Vous y êtes, dans la torpeur de 1982, le fauteuil en cuir qui colle à la peau et se détache difficilement, et le short et le visage sale, vous y êtes. Vous vous levez, vous vous éloignez de l'écran où le visage de Marius est animé d'un ralenti grossier et son nom, dans une typographie à la géométrie floue, clignote. Le laissant derrière vous, vous ouvrez la porte-fenêtre de 1982. Et là dehors, il y a la chaleur du mois de juillet 1982 qui d'un coup vous saisit. Vous ne pensez plus à rien d'autre. Ne pensez pas à autre chose qu'à ça. Ok ? C'est très bien. C'est très bien ce qu'on fait là, c'est très bien. Vous pouvez laisser un instant le jardin de côté pour simplement vous concentrer sur la chaleur qui entre dans la maison et qui vous traverse. Et vous n'avez pas de main fraîche pour poser sur votre visage. Encore quelques pas, allez, allez encore un, voilà. Seul compte la chaleur et l'idée d'une banlieue indéterminée. Il suffit en fait de peu de choses, de la chaleur qui chauffe l'asphalte, d'un terrain de basket par exemple, déserté, éventuellement une route nationale qui longe une immense forêt, où les yeux des animaux encore domestiques il y a peu brillent maintenant avec ceux des espèces que l'on croyait disparues. Vous pouvez ajouter ensuite des passerelles métalliques, des vélos déglingués, des drapeaux d'Algérie, de la Jamaïque, des collines pelées, des t-shirts où l'on devine encore, presque invisible, comme un suaire bleu ciel, le visage jeune de Michel Platini. Mettez des stades de foot, mettez-en plusieurs, identiques, parallèles, en terre battue, rouge, ou en gravier blanc, il faut choisir, c'est l'un ou l'autre. En prenant soin de les éclairer de manière à ce qu'ils ne soient plus que de parfaits rectangles dans la nuit. Alors, il y aura fatalement une dominante un peu verte, comme ça, qui est en fait l'effet de la lumière néon sur les rétines. Ça, c'est pas la peine de vous en préoccuper. Mettez aussi des chronomètres, au choix des Algeco, avec des hommes qui ont de la fumée à la place du visage. Si possible, qu'ils parlent arabe, ou bien des Africains subsahariens, comme on dit dans le catalogue. Choisissez le Wolof qu'ils doivent parler dans un rythme rapide, sans se regarder, vraiment, pour être plus réaliste. L'équilibre est difficile. Vous pouvez en allonger certains sous l'Algeco, le midi, après le repas, avec juste les jambes qui dépassent. Ensuite, c'est assez libre. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis des entraîneurs en anorak, des lacs artificiels, des pistes d'athlétisme. J'ai tracé des lignes à la craie blanche, ajouté parfois des cris très brefs, de l'huile de camphre, ou alors l'odeur de l'huile de camphre, des bandelettes. Et si vous voulez, vous mettez aussi l'impression étrange du mardi soir ou celle plus triste du jeudi. Il faudra qu'il y ait de la fatigue. Et c'est difficile de dire comment, c'est difficile de savoir d'où elle vient. Il faudra, si possible, qu'elle vienne d'un hors-champ, qu'elle soit là, mais qu'on ne la voit pas arriver. Il faut qu'elle diffuse. Voilà. Vous pouvez continuer comme ça, c'est pas mal. Et vous continuez à vous éloigner de la maison et du canapé. Et vous savez pourtant, vous le savez pertinemment, qu'il ne sera pas possible de revenir. À chaque pas, vous devenez à chaque fois un peu plus une petite merde insignifiante. Vous devez le sentir dans vos os maintenant, vos organes que vous avez retrouvés. C'est important que vous le sentiez, ça, et la chaleur. La banlieue avec ses écarts particuliers, ses distances, et le fait que marchant ainsi, dans un air presque irrespirable, ou même trottinant, vous êtes une parfaite petite racaille. Un sauvageon qui boite, vous êtes un petit criminel, un malfrat, avec une jambe de pantalon retroussée. Vous êtes un vendeur de drogue, un prophète en survêtement blanc, pantalon, casquette également blanche, Sergio Tacchini. Et là, je vous préviens, vous allez devoir courir. l'impression que c'est bon là, hein? Que c'est OK là, que vous êtes totalement OK, vous y êtes là. C'est bien, c'est super. Moi, j'ai un petit souci. J'ai une question, je dirais. Pourquoi vous êtes-vous levé du canapé? Moi, je n'avais pas dit qu'il fallait se décoller du canapé. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas mon idée. Vous auriez pu rester en place, tranquille, enfant de la patrie, les ordres de la République vous auraient couvert d'une lumière de bienveillance. Vous aviez tout, vous étiez gâté, les plus belles manifs. En vous levant de ce canapé, vous avez traversé la scène d'un spectacle pour lequel personne ne vous avait choisi. Alors vous allez devoir courir maintenant. Et ce n'est pas de ma faute. Ne me dites pas que je vous ai abandonné. Vous allez devoir courir, sinon ils vous casseront les os. Vous ne pourrez plus revenir. La maison n'existe plus déjà. Il n'y a plus de terrain stable. Those men will break your bones. You don't know how to build stable homes. Stable homes. Ooh yeah, stable home. Ooh yeah, vous connaissez la chanson. Stable home. Ooh yeah, stable home. Ooh yeah. Stable home, ooh yeah. Stable home, ooh yeah. Stable home, ooh yeah. Stable home, ooh yeah. Don't know how to build stable home. Stable home. Those men will break your bone. You don't know how to build stable home. Ooh yeah, stable home. Ooh yeah, stable home. Ooh yeah, those men will break your bone. You don't know how to build stable home. Ooh yeah. Stable home, ooh yeah, stable home, ooh yeah. Plus jamais vous ne serez en paix maintenant, c'est terminé. Vous êtes levé du canapé, ne me demandez pas pourquoi, vous allez devoir courir. C'est pas moi qui ai dit qu'il fallait se lever du canapé. Moi j'ai juste dit qu'il fallait un canapé. Et aussi, j'ai dit qu'il fallait le mois de juillet. En 1982. Le reste, c'est vous. Moi, j'ai rien dit sur le dehors, sur le péril de sortir et marcher jusqu'à devenir cette parfaite petite créature de muscles et d'os. Cette machine folle, traversée de sécrétions qui sillonne les rues sur un 103 SP. Et qui tourne. Ça, c'est vous. C'est vous qui tournez. Qui tourne entre les tours, comme un derviche tourneur, comme le dernier danseur sur la piste de la dernière soirée la plus lointaine et la plus désespérée, qui hurle les paroles de Bob Marley avant de s'effondrer. Et quand on essaie de le réanimer, avant de le perdre dans une overdose, il dit avec ce visage blanc, blême, entouré de cheveux roux, « Hé, mec !» Moi, je suis noir à l'intérieur. Moi, je n'ai pas voulu ça. Je n'ai pas eu envie que vous soyez ça. Vous auriez pu rester dans le canapé collant, à regarder par la fenêtre les chiens se mordre jusqu'au sang et l'effet de la chaleur qui trouble le paysage. Mais vous avez voulu autre chose. Quelque chose vous a poussé. Et vous voilà qui posez votre visage sale sur les fenêtres d'un pavillon et qui entrait dans la maison toujours en soulevant la fenêtre et en enjambant comme on fait en Amérique. C'est vous qui cherchez l'endroit où
il y a de la chaleur, comme un cambrioleur qui veut poser son visage dans un endroit chaud et humide. C'est vous qui avez voulu ça. Ce n'est pas moi. Si vous continuez comme ça, vous allez vous faire tuer par accident à plusieurs reprises. Par la police. Il ne faut pas courir. Il faut reprendre le contrôle. C'est vous qui devez commander vos muscles. Sinon, vous courez. Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si vous étiez un cambrioleur qui vient tout juste de sortir son visage d'un endroit chaud et humide. Et alors il s'enfuit, et pour ça on va le tuer. C'est un délit, même si on ne peut pas le dire en ces termes, et donc on vous tuera à tous les coups, et les gens diront, mais pourquoi courait-il alors? En 1983, au Minguette, à Lyon, pourquoi courait-il? En 1986, à Paris, pourquoi courait-il? En 1989, à New York, pourquoi courait-il en 1991 à Los Angeles, sur le bord d'une autoroute? Et cela durera jusqu'à 2005. Maintenant, de façon répétitive, sans aucune variation, avec toujours la même question. Faudrait vous reprendre, ressaisir vos muscles, escalader l'intérieur de vous pour apercevoir un autre film. Sinon, aujourd'hui, en 2005, vous allez être traversé d'un courant électrique violent dans un accident regrettable impliquant les forces de l'ordre. Et de nouveau, il va falloir ramasser le masque mortuaire avec les yeux d'un autre et l'enfiler pour voir et construire le futur. On va se poser un peu. On va reprendre. On va se poser autour d'un feu. C'est un truc qui marche bien. On va faire brûler des voitures. Pas la peine d'aller très loin. Souvent, les gens ils se demandent pourquoi on brûle les voitures près de chez soi. Pour faire un feu près de chez soi. C'est la réponse. Sinon, on fait ça pour les autres. Pas la peine d'aller très loin. On peut juste faire ça ici, juste pour se retrouver autour de quelque chose d'ancien. Je vous l'avais dit, il ne faut absolument pas entrer sur la scène de l'histoire. Il ne faut pas la traverser. Restez ici, faites un vœu, un feu, posez-vous. On ne vous verra pas, juste des ombres. Calme, c'est bien, c'est très bien, c'est cool. Là, je sens qu'on se comprend. Ça me fait plaisir que vous m'écoutiez. Vraiment, je ne sais pas comment vous dire ça, mais je me sens un peu responsable aussi. J'aurais dû être un peu plus ferme ou plus clair sur l'histoire du canapé. Vous auriez pu rester là devant l'image gelée de Marius Trésor. Mais là, je trouve qu'on est bien avec ce feu, c'est agréable, cette chaleur. On est un peu comme une bande de potos, vous voyez. On ne pensait plus à rien, profitez. Entrez votre visage entier dans le feu jusqu'aux oreilles. Retenez votre souffle, ne respirez plus, fermez un temps les yeux, en étant seulement attentif au goût, pas à la chaleur, mais au goût de cette flaque d'essence qui ressemble à une carte de l'Europe. C'est un goût inconnu, le goût du futur. Maintenant, vous ouvrez les yeux. Regardez le futur dans cette flaque et vous voyez que ça va changer. Ça va changer radicalement. Après tout ce feu, il y aura une espèce de moment très calme et heureux. On sera comme une bande de potos. On se dira qu'il ne faut plus courir, qu'on ne va plus mourir par accident. ou être tirés comme des lapins. On va être des potos. Une gigantesque nation de potos. On va rentrer dans l'histoire tous ensemble. Et personne ne se souviendra que nous n'y étions pas avant. On va se mettre des beaux habits. On sera dans la lumière. On va enflammer le monde. Merci.